Eleanor Sini.
Martin Eden. Stavo leggendo questo Baudelaire.
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 È francese.
Certo, sì.
È in francese. Io pure parlo un poco di francese.
Ah, sì?
Sì, sì. Salut.
Salut.
Je m'appelle Martin.
Je m'appelle Martin.
Martin, un nome, sì, un po' più francese, Martin. Sì.
Ils vont se multiplier!
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission!
Ne fais pas de bruit, t'as pas le d'or.
Une, un, tout, vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Une, un, tout, vous. Alors, go away now.
Allez, action!
Action, pour quoi faire?
On a souvent peur et on a souvent raison des adaptations littéraires au cinéma, surtout quand il s'agit d'un livre culte comme celui-ci. Martin Eden, le roman de Jack London, est désormais un film italien, moderne et remarquable. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Il l'a découvert à 20 ans et l'adapte 25 ans plus tard au cinéma. Transpose la Californie de 1909 à Naples sur tout le XXe siècle. Et paradoxalement, plus le film s'éloigne du roman, plus il en est proche. L'auteur de ce film, Martin Eden, s'appelle Pietro Marcello. Nous l'avons rencontré cette semaine en escale entre New York et Londres parce qu'il voyage beaucoup avec ce grand film. Martin Eden, le roman de l'autodidacte, ce fils de la classe ouvrière qui croit en la culture comme instrument d'émancipation et qui se cognera à l'ordre du monde. Bonjour Baptiste Liger.
Bonjour.
Vous avez vu ce film et votre revue Lire lui consacre un dossier. Nous ferons avec vous un aller-retour entre le livre et le film. À vos côtés, une écrivaine et une musicienne, Jack London la suit depuis l'enfance et elle a même consacré une chanson à Martin Eden, Martin. Bonjour Marie Modiano.
Bonjour.
Vous nous raconterez votre attachement à l'œuvre et au film sur les écrans la semaine prochaine. Enfin, les sorties nombreuses de ce nouveau mercredi de cinéma, de Joker à nos défaites, Papicha pour sa Ma sœur d'armes et Les ours en Sicile, ne tardons pas.
Le monde est donc plus fort que moi.
Le monde est donc plus fort que moi.
A suo potere non ho altro da opporre che me stesso.
À son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même.
Il che d'altra parte non è poco.
Ce qui en réalité n'est pas rien.
Finché infatti non mi lascio sopraffare.
En effet, tant que je ne me laisse submerger, je suis moi aussi une puissance.
E la mia potenza è temibile.
Et ma puissance est redoutable. Tant que j'aurai le pouvoir de mes paroles.
A opporre a quello del mondo.
À opposer à celui du monde.
Perché chi costruisce prigioni si esprime meno bene di chi costruisce la libertà.
Parce que ceux qui construisent des prisons s'expriment moins bien que ceux qui construisent la liberté.
Ainsi commence Martin Eden, le film de Pietro Marcello. Il commence en fait à la fin de l'histoire, lorsque Eden est enfin publié et reconnu. Tout le reste du film est un flashback. Avant justement d'évoquer ce film, un retour déjà avec vous, Baptiste Liger, sur cette œuvre de Jack London, un roman, son 9e, boudé par la critique à l'époque, après notamment le grand succès de L'Appel de la Forêt. Jack London, en quelques mots, c'est un petit peu compliqué, puisque son roman Martin Eden est en partie autobiographique.
Oui, oui, mais c'est évidemment un petit peu plus compliqué, parce que lui-même a joué de l'ambiguïté en disant, enfin voilà, en grand disant Martin Eden c'est moi, mais en même temps non, ça n'est pas de l'autobiographie. Bref, encore une fois, à chacun d'interpréter comme il veut, à partir des bases que l'on peut avoir de sa biographie. Mais London, c'est surtout une figure atypique de la littérature américaine. Quelqu'un qui symbolise à la fois le voyage, la liberté, l'engagement politique, ce qui n'est pas forcément si fréquent dans la littérature américaine, ouais. Et qui fait vraiment le pont, j'allais dire, je le dis vraiment à gros traits pour qu'on le recontextualise, entre une certaine littérature américaine, disons néoclassique, un petit peu la littérature à la Mark Twain, pour le dire de manière assez simple, et une littérature plus élaborée dans le sens contemporain du terme, c'est-à-dire celle qu'on va retrouver par exemple chez Faulkner, ou par hasard, ou par exemple chez des gens qui sont les héritiers directs, Burroughs, la Beat Generation, etc. C'est quelqu'un qui fait le pont entre ces deux mouvements de la littérature américaine.
C'est à Honolulu en 1907 qu'il commence l'écriture de ce livre, ce grand roman d'apprentissage, on peut dire. Hein. Un jeune marin issu de la classe ouvrière de San Francisco, ému par l'amour idéalisé d'une jeune bourgeoise, se découvre une vocation d'écrivain, puis se découvre aussi la culture comme instrument d'émancipation. Il le termine en 1908 et c'est une grande attaque contre la bourgeoisie.
Ah oui, clairement, parce qu'il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, la politique a été très importante importante pour lui. Ouais. Il a été militant socialiste, il a été très marqué par la lecture de Marx, de Spencer. Bon. Ouais. De Nietzsche aussi, dans une autre doctrine, évidemment. Et c'est surtout
un livre marginal aux États-Unis à cette époque.
Ah, hein, il faut le rappeler. Encore une fois.
Le socialisme et le marxisme.
Oui, c'était pas forcément très bien vu à l'époque.
C'est
le moins qu'on puisse dire.
Enfin, je veux dire, c'est au-delà. C'est l'ultra-gauche. Hein.
À recontextualiser aussi aujourd'hui, d'ailleurs. Mais surtout, c'est un livre qui arrive à un moment très précis de sa carrière, puisqu'il a eu de grands succès, avec ses romans comme L'Appel de la forêt, par exemple, ce qui lui a permis de vivre de son œuvre et de sa plume, ce qui est aussi très rare, il faut aussi le comprendre. Et donc, arrive soudain ce Martin Eden, inspiré par sa vie, avec ce personnage qui lui ressemble, d'autodidacte, très marqué politiquement, qui veut, encore une fois, appartenir à une classe qui n'est pas la sienne, quelqu'un qui veut aussi vivre de l'écriture, être reconnu comme tel, avec tous les ennuis qui vont arriver, évidemment, au personnage principal.
Marie Modiano, Jack London, je le disais, vous suit depuis l'enfance. Vous l'avez découvert toute petite, l'œuvre de ce Jack London.
Oui, parce que souvent, on en parlait tout à l'heure, c'est les romans qu'on découvre enfant, Cro-Blanc, mais le choc, disons la vraie rencontre avec Jack London a été un peu plus tard, vers 13 ans, avec Martin Eden, qui n'a cessé de me suivre depuis. Donc ça fait un moment, et j'étais, même si j'étais très jeune quand j'ai découvert le livre, moi je l'ai découvert comme quelque chose qui allait m'aider dans mon chemin, puisque je voulais déjà, j'avais déjà une idée que je voulais m'engager dans une voie artistique, et donc le fait de sentir ce personnage comme une force, en fait, qui donne une sorte de force, et de par sa pureté, son premier degré, puisque je considère justement les parcours artistiques à chaque fois, on fait venir le second degré, mais moi, chaque vocation artistique, c'est le premier degré, en fait. Plonger dans le premier degré, et donc ce personnage m'a suivi depuis. J'ai écrit une chanson pour lui.
Alors justement, on va l'entendre, cette chanson, elle s'appelle Martine, et vous la chantez en anglais. C'était un bon garçon, sage et fort, son cœur était pur pour ce monde méchant. On écoute.
Martin was a good boy. He was wise and strong, and his heart was far too pure for this mean old world. Martin was a sailor, the secrets of the sea and pretty mermaids were dancing in his dreams. But he fell deeply in love with a rich girl called Ruth. She thought he had no education, no class, so he told himself, I'll turn into another man and I'll conquer her heart. In the ocean, she was the one who truly loved you.
En fait, Marie Modiano, dans cette chanson, vous racontez tout le livre. Hein, non, mais c'est vrai, c'est le livre en 3 minutes.
J'ai essayé c'est vrai qu'une chanson comme on a, à part de faire une chanson qui dure une heure, j'aurais pu faire une lecture du livre.
Oui, oui.
Mais comme ce livre m'avait vraiment suivi depuis toutes ces années, et surtout Martine, le personnage, je me suis dit, un peu comme des amis, j'ai écrit parfois des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont inspiré des chansons, je me suis dit, il mérite une chanson, et puis là maintenant, je suis contente qu'il ait un film, et ce personnage mérite beaucoup de choses, dommage.
Juste une parenthèse, parce qu'il est rentré à la Pléiade.
Absolument, voilà. Absolument.
Enfin, Jack London.
Eh oui, il fallait bien un petit moment, mais ça y est, il est rentré dans cette vénérable institution.
Pourquoi ce petit moment alors, justement?
Il faut toujours le temps un petit peu de, je veux dire, de panthéonisation.
Et
il...
Sauf pour Dormesson, mais ça c'est une erreur.
Ça c'est un autre problème. Non, mais il faut savoir que pour nombre d'auteurs, je répète, il y a toujours ce malentendu d'écrivain un petit peu pour enfants qui a été un peu mal considéré pendant des années, pour des raisons au départ de traduction, parce qu'on a eu des traductions au départ pour découvrir London, qui était vraiment expurgé des scènes les plus dures et qui était un petit peu adouci dans le vocabulaire, ce qui ne lui a pas permis au départ d'être considéré comme un grand écrivain au sens où on l'entend traditionnellement, un petit travail du temps et on arrive à ça.
Oui. Ceci dit, chaque personne qui lit le roman Martin Eden est bouleversée.
Oui, bien sûr.
Que ce soit des gens qui aiment lire, qui n'aiment pas lire, c'est ça bouleverse tout le monde. Oui. C'est ça qui est assez incroyable avec ce roman, c'est complètement universel et intemporel.
Et Martin Eden a déjà été adapté au cinéma, en version muette en 14 et un film oubliable hein, de 1942 de Sidney Salco, Les aventures de Martin Eden avec Glenn Ford.
Je crois qu'il y a même eu une mini-série inspirée de manière très lointaine de Martin Eden.
Mais la version muette, c'est vraiment très très proche du moment où sort le film, c'est quand même remarquable. Hein. Ça prouve bien l'importance du roman dès ce moment-là.
Mais il était extrêmement impopulaire à l'époque, hein. Rappelons-le, c'est quelqu'un qui a été une des vedettes des lettres avant la Première Guerre mondiale.
Je le disais en ouvrant cette heure, Pietro Marcello donc découvre ce film à 20 ans grâce à son scénariste qui le retrouve à 25 ans plus tard. Ça aussi c'est très troublant. Lui aussi est un autodidacte, il a quitté sa famille à 15 ans, c'est un voyageur, il a enseigné en prison, il a un père marin et une vocation libertaire. C'était le candidat pour adapter ce film. Nous l'avons rencontré cette semaine, ce Pietro Marcello. Ça va être précédé d'un extrait du film que nous avons fait interpréter en français par Cyril Sauvageau et Ophélie Vivier.
Durant ces derniers mois, j'ai réfléchi à ma situation. Et j'ai senti comme un feu créateur me brûler de l'intérieur. Pour faire de moi le témoin du spectacle du monde. Je veux devenir écrivain. C'est ma résolution.
Vous savez, je ne m'y connais guère. Mais je crois qu'écrivain est un métier comme un autre. Et comme tous les métiers, il faut des bases.
Vous désapprouvez ce choix ?
Non, ce n'est pas ça. Je crains que votre enthousiasme ne vous fasse sous-estimer les risques que vous courez à entreprendre cette voie.
Non, je ne sous-estime pas les difficultés. Laissez-moi vous poser une question. Et si j'étais doué pour l'écriture?
Mais quel que soit votre talent, personne n'apprend un métier sans apprentissage.
Vous me conseillez quoi?
Une instruction complète, monsieur Eden, même si vous ne devenez pas écrivain.
Ce que j'aime de Martin Eden... C'est la poussée vitale de ce jeune qui se rachète à travers la culture avec courage. Probablement cela qui est important dans le livre. Même si, évidemment, c'est un héros négatif et qui, avec son individualisme, il a quelque chose de commun avec la figure de Jack London, qui a été la première victime probablement de l'industrie culturelle et de la littérature de masse moderne. Bien sûr, je crois que c'est un livre sur la lutte des classes. Je crois que la lutte des classes est encore présente, elle existe encore aujourd'hui.
Vous dites que votre recherche créative, elle se focalise sur la vie des plus humbles et des plus opprimés. C'est en ça aussi que vous vous rejoignez tous les deux?
Je crois dans la nécessité de faire les choses. Je cherche la nécessité, je ne crois pas dans l'art pour l'art de Théophile Gauthier. J'ai une vision du monde qui regarde le monde autour de moi. J'essaie de me poser des questions morales. Et je pense que j'ai une sorte de mandat, et c'est celui de réaliser des choses nécessaires. Je crois que c'est ça qui est important, d'avoir une nécessité dans ce qu'on fait. Le cinéma est toujours un instrument très puissant pour l'émancipation des personnes. Je pense beaucoup aux jeunes. Et je crois que au monde des jeunes. On ne parle plus des jeunes. Et on ne se demande jamais aux jeunes ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils ressentent. Et j'espère que Martin Eden pourra être vu par des jeunes.
La décision que vous avez prise la plus importante dans l'adaptation, c'est de, justement de ne pas l'adapter à l'époque actuelle, mais de traverser le XXe siècle. C'est ça la grande folie et innovation de cette adaptation.
Parce qu'avec
Maurizio Braucci, on se pose la question comment adapter ce roman. Avec la réduction de ces 100 pages, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas la culture littéraire de la marine, on n'a pas Melville, on n'a pas Stevenson, on a Carlo Levi, Ungaretti, Fenoglio. Mais on a une mer qui n'est pas l'Atlantique, mais qui n'est pas le Pacifique. Et c'est une sorte de baignoire, la Méditerranée. Alors on a choisi Naples parce que c'est une ville tolérante, accueillante, mais ça aurait pu être Marseille. Et notre Martinet est en contact avec la mer, mais il est aussi quelqu'un de la campagne. Clairement, c'était important de traverser le XXe siècle. Le XXe siècle comme un siècle court.
Et quello che è stato il Novecento,
c'est ce qu'a été le XXe siècle, parce que Martin Eden est un roman de ce qui va être le XXe siècle. Il parle de Spencer, à la place de Spencer, on aurait dû parler de Sorel, qui est plus adapté pour nous, Européens. Mais après Spencer, il y a eu Nietzsche, Mussolini, Hitler, toutes les grandes dictatures. Nous l'avons adapté dans un certain sens à nos jours que nous vivons et ce qui se passe aujourd'hui dans ce moment historique. 40 ans, il y a 40 ans, personne n'imaginait que le souverainisme, le populisme, que l'Europe allait être brisée, que après toutes les tragédies qui ont eu lieu durant le XXe siècle. Et clairement, mon film est un film politique. Et il peut être lu d'une manière actuelle.
Il y a un travail d'image d'archives extraordinaire entre des vraies archives et vous, que vous avez filmé, vous mélangez, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que vous avez beaucoup filmé de gens dans la rue, non ?
Je viens du documentaire, c'est comme ça que je me suis formé, je suis habitué à l'imprévu, je ne crois pas à l'écriture, parce que l'écriture est une œuvre incomplète. C'est jamais été un film qui a été réalisé dans une zone de confort, on a toujours essayé d'aller hors des chemins battus. C'est un film d'un point de vue populaire. La vocation populaire du film est d'une part et l'expérimentation. On a essayé de raconter la grande histoire à travers les archives. Et beaucoup des archives qu'on voit sont des choses que j'ai filmées moi par le passé. Pour moi, ce qui était important, c'était de raconter la grande histoire, puisque j'ai produit ce film comme tous ceux que j'ai réalisés. Le cinéma est aussi une question d'économie. Probablement. Ce n'est pas un art pur, c'est un art. C'est la culture, mais c'est aussi une économie. Et souvent, le cinéma aujourd'hui est seulement divertissement. Et ça limite tout ce que nous faisons. Même si les surréalistes disaient, les gens vont au cinéma pour éprouver des émotions. Qui sont niées dans la vie quotidienne. Mais je crois que c'est un instrument aujourd'hui nécessaire, puissant, et aussi inexploré.
Donc le cinéma est un art impur à cause de l'argent.
Existe une économie.
Et l'économie commande le monde. C'est pour ça qu'il faut être toujours plus indépendant, toujours plus libre. Moi, je suis libertaire, j'ai une position libertaire par rapport à ma vision du monde.
La poussée vitale, vous l'évoquiez, ça, Marie Modiano. Vous avez vu le film, vous l'avez aimé?
Oui, j'ai beaucoup aimé. J'étais un peu presque. J'avais un peu le trac à l'idée de le découvrir.
De qui inquiète ?
Oui, bah oui,
c'est souvent compliqué quand on aime beaucoup les romans et je trouve qu'à la fois il est assez proche et loin du roman pour que ça. Voilà, qu'on considère le film comme un film Et on n'oublie pas le roman, mais c'est une œuvre d'art en tant que telle.
Juste une chose, on écoutait votre chanson tout à l'heure, elle était très romantique et pas politique. Or, le film, lui, comme il le dit, est très politique.
Pour faire une chanson politique, c'est un peu, enfin, il y en a beaucoup, mais c'est-à-dire que là, quand j'ai voulu écrire cette chanson, je me suis uniquement appuyée sur ce personnage, en effet, qui est très romantique, qui est très dont la force et l'humilité et le courage m'avaient inspiré. Mais c'est vrai que ce qui m'a plu dans le film et dans le roman, c'est aussi cette dimension politique qui est complètement intemporelle. C'est ce qu'il disait Pietro Marcello, c'est qu'en même temps, il a réussi à travers son film de parler de quelque chose de très très actuel, en fait, qui traverse les époques et encore plus aujourd'hui.
C'est ça qui est révolutionnaire, Baptiste Ligé, hein, c'est d'avoir faire tous ces anachronismes, quoi.
Ah oui, ça montre une véritable audace, et ça me plaît d'autant plus, parce que bon, Christine Laurent, chaque semaine, on envoie des adaptations bien plan-plan, qui passent davantage de temps à soigner la reconstitution en moindre détail, en passant complètement par une lecture intelligente d'un roman, une capacité à revisiter une œuvre. Là, on a quelqu'un qui s'empare d'une œuvre pour en faire quelque chose de très personnel. Je trouve que cette idée de transposition est extrêmement maline. Ouais. Puisque, au départ, il faut savoir que Martin Eden, c'est quelqu'un qui est, enfin, c'est une œuvre qui est fortement marquée par la culture européenne. Notamment, on peut dire Hugo, on peut dire Balzac, Maupassant, etc. Enfin bon, bref. Donc, on a d'une certaine manière un basculement et un retour à l'envoyeur avec cette transposition qui joue sur la temporalité, qui joue sur les ellipses, sur la frontière entre la fiction et justement ces images d'archives pour nous proposer quelque chose de différent. Et en trouvant des ponts véritablement contemporains. Voilà, le San Francisco, j'allais dire, de l'époque de Jack London. Voilà, aujourd'hui, c'est Naples. Et moi, j'aime beaucoup cet affranchissement, cette audace, qui en plus marche d'un point de vue narratif et romanesque au cinéma.
C'est drôle, un cinéaste qui dit « je ne crois pas à l'écriture ».
Ah oui, ça ne manque pas de paradoxe, en effet.
Non, mais c'est son côté documentariste qui est passionnant dans le film, parce que justement, c'est lui qui a amené ces traces de réalité, et en plus, des traces que lui-même a filmé, lui, Pietro Marcello.
Mais justement, ça contamine sa fiction, et ouais. On a l'impression que toutes ces parties, s'interpénètrent les unes les autres pour donner un résultat très étonnant qui brouille nos repères traditionnels. Bon, au tout début du film, il faut le dire, on est un peu décontenancé, ouais. Ce qui n'est pas forcément désagréable au cinéma.
On entend du Joe Dassin, c'est pour ça qu'on a mis la musique du sommaire là-dessus.
Absolument.
C'est vrai.
Donc on se dit, mais
salut.
On est où, comment, etc. Enfin bref, on peut avoir lu, ça n'est pas forcément nécessaire d'avoir lu le roman avant.
Non.
Aucune importance.
Peut-être,
mais
mieux pas, d'ailleurs.
Peut-être, allez savoir. Ouais. Mais en tout cas, on est dérouté, on est intrigué. Et justement, c'est ça qui est fascinant dans ce film, qui est aussi porté, il faut le dire, par un comédien.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Mais
justement, grâce à ce comédien, bien sûr, il y a la dimension politique, mais il a réussi, grâce à ce formidable acteur, à faire ressortir le côté romantique aussi, et puisque cet acteur, non seulement il a un charisme fort, mais il fait ressortir ce qui est assez rare au cinéma, la bonté aussi du personnage.
Oui, c'est vrai.
Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup ému, voilà.
Luca Marinelli. Oui. Et juste détail assez amusant, il faut savoir qu'il a obtenu quand même le prix d'interprétation masculine au Festival de Venise, où tout le monde attendait Joaquin Phoenix pour ce prix. Mais ce qui est très amusant, c'est de se dire qu'il est assez populaire en Italie grâce à un rôle de super méchant dans un film de super-héros italien qui s'appelle On l'appelle Jig de Robot, pour lequel il avait déjà été primé. Allez comprendre, il y a vraiment des ponts parfois très surprenants.
On disait que Pietro Marcello s'exprimait beaucoup dans ce film, mais là aussi il y a une scène notamment où on a l'impression qu'il parle à la première personne, ce cinéaste, c'est dans cet extrait, Martine et sa fiancée sortent du cinéma.
Era un bel film.
Quel beau film.
J'ai pas aimé, on connaît par cœur ces histoires.
Pour moi, c'est un beau film. Quelle histoire voudrais-tu qu'on raconte?
Il y a des millions de personnes, il y a autant d'histoires à raconter.
C'est un film drôle, émouvant, plein d'espoir. Essaie de voir le monde d'un point de vue différent quand tu écris.
Ce que j'écris n'est pas bon?
Non, ce que tu écris est trop cru.
Trop
de morts, trop de douleurs.
C'est l'hôpital qui se moque de la charité.
Cosa?
Tu vorresti che io togliessi tutte le cose brutte che scrivo.
Tu voudrais que j'arrête de décrire la misère pour donner de l'espoir? Va dire ça aux désespérés.
Mais c'est les désespérés qu'il faut aider.
Oui, en les droguant.
Mais qu'est-ce que tu racontes?
Que vient faire la culture dans l'émancipation? Rien du tout, monsieur Eden. Retour à l'envoyeur.
Tu te trompes, Martin.
Non, c'est toi qui n'as pas conscience des bêtises que tu dis. Tu es intelligente, pourquoi tu ne comprends pas?
Ce que tu écris ne se vendra jamais. Nous ne pourrons jamais nous marier ni fonder une famille.
Marie Modiano, vous avez écrit un livre qui s'appelle Lointain, dont l'histoire est un petit peu proche, avec une histoire avec un garçon qui n'arrive pas à se faire publier.
Je dirais que les seules ressemblances, c'est encore une fois ce roman Lointain, c'était un livre sur les vocations, la vocation principalement littéraire de ce jeune homme qui se vouait corps et âme à la littérature sans en rencontrant de multiples obstacles sur son chemin, et dans ce sens-là, oui, les personnages sont assez proches, se ressemblent par justement encore une fois le premier degré et la force de la volonté qui pousse à aller au-delà de soi-même quand on s'engage dans un chemin artistique.
Il y a un grand écrivain dans votre famille. Je suppose que... Non mais lire un roman d'un garçon qui passe des jours, des heures, des nuits à écrire avec cette volonté de se dire qu'il y arrivera... C'est un grand... Vous voyez, est-ce qu'il y a un parallèle à faire sur la capacité de travail de votre père, par exemple?
Je pense que bon, c'est peut-être aussi ça qui m'avait ému dans ce livre de Martin Eden, puisque j'ai en effet grandi avec quelqu'un qui s'est consacré à ce métier qui est quand même très difficile. De toutes les disciplines artistiques, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la littérature où en fait on est en permanence seul. On a beau avoir une famille, peut-être des amis ou pas, mais je pense que les gens qui s'engagent dans cette discipline et qui continuent pendant de nombreuses années, d'ailleurs il y en a beaucoup qui se détruisent ou qui n'arrivent pas à supporter voilà la difficulté, oui. La solitude que ce métier représente. Du coup, c'est vrai que cette force-là, que ce soit chez tous les gens chez tous les écrivains qui continuent leur chemin comme des courageusement, il y a quelque chose, voilà, comme dans le livre de Martin Eden, quelque chose qui est presque proche de la, je dirais pas de la folie, mais une sorte de conviction que personne ne peut arrêter, comme un cheval qui s'échappe et qui court, sans s'arrêter. Et c'est vrai qu'il y a tout le temps quelque chose d'émouvant. Ça peut être la profession littéraire, mais dans toutes les professions artistiques, de rien, les bonheurs, les échecs, les difficultés, que de continuer son chemin, quoi qu'il arrive.
Ce qui est fou, Baptiste Léger, c'est que dans le livre, on n'a pas d'extrait de l'œuvre de Martin Eden. Alors, la merveille du film, c'est qu'il a imaginé, et on entend et on lit les textes de Martin Eden.
Oui, ça permet...
Le scénario est dingue.
Non, mais ça permet aussi d'incarner et de mettre des lettres à proprement parler par rapport à un résultat visuel qui nous est donné. Ça aussi, c'est quelque chose, je trouve, qui fait que le film est aussi passionnant. Voilà, parce qu'on a cette trace de l'écrit et cette différence, évidemment, qu'on a évoquée tout à l'heure, entre voilà les attentes potentielles d'un public, des éditeurs, de la famille, d'une certaine culture, on va dire, bourgeoise, et encore une fois, une certaine liberté de création. Là, on le sent à travers ces mots, justement.
Et cet apprentissage de la littérature va lui apprendre à parler, à être éloquent et à se battre avec les autres. Et il y a cette grande scène du livre et du film qui est le repas bourgeois.
Vous prenez des mesures socialistes. Le socialisme est votre idée, pas la mienne. Moi, je n'ai pas été infecté. Je suis contre le socialisme et contre cette farce de démocratie que vous soutenez.
Tu exagères.
Vous soutenez les traders et les marchands, dont le seul intérêt est de s'enrichir comme des porcs, et vous appelez ça des libéraux. Mais le libéralisme n'existe pas dans votre monde, il n'a jamais existé. C'est une erreur, car le monde continue à appartenir aux individus réels, aux aristocrates,
démocrates aux grands fauves blonds que rien n'arrête, qui n'acceptent aucun compromis, qui vous dévoreront. Vous, les socialistes, effrayés par le socialisme. Vous qui vous considérez comme des individualistes. Je sais que vous n'y comprenez plus rien et je ne vous dérange pas plus longtemps. Mais encore une chose que je veux vous dire. Il y a probablement 5 ou 6 individualistes en ville et Martin Eden est l'un d'entre eux.
Oui, individualiste et pas socialiste, Baptiste Liger.
Oui, ça, ça a été d'ailleurs le grand drame de Jack London, cette oscillation entre les deux. Lui qui, voilà, c'est vraiment, a été dans les deux camps, enfin, voilà, qui a véritablement ressenti ça. Et le film aussi retranscrit, enfin, voilà, ces oppositions claniques d'époque, mais là, encore une fois, recontextualisées. Car quand on entend, par exemple, le mot trader ici, il est évidemment connoté de manière différente. Et justement, ce film nous permet de comprendre des thématiques qui étaient présentes, j'allais dire, au début du 20e siècle, qui sont, enfin, qui n'ont pas tellement évolué. En fin de compte, le film le montre assez bien, je dois dire.
Et là, l'intro de Jaworski dans la nouvelle édition, il dit « On ne l'a pas reconnu et aimé pour lui-même, il n'a donc jamais détaché de ce qu'il est, de ce qu'il écrit ». C'est ça qui est très fort aussi dans Martin Eden, c'est qu'on ne l'a pas aimé pour lui. C'est un cœur pur.
D'une certaine façon, même le succès est pour lui une sorte de malentendu.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'il a été populaire? Est-ce que ses œuvres ont été aussi appréciées exactement pour ce qu'il mettait dedans ou pour d'autres éléments? Voilà, ça peut être aussi dramatique pour un écrivain ou tout créateur qui soit, ouais.
Vous restez avec nous, Baptiste Liger et Marie Modiano, Martin Eden de Pietro Marcello, et dans le rôle titre, donc, Luca Martinelli, pris l'interprétation, fameuse coupe Volpi à la Mostra de Venise. Il sort mercredi prochain, mais vraiment, courez-y. On se retrouve pour les sorties de la semaine après Anderson .Paak et Nate Dogg.
The hook fast, real life graphic son of a gas.
Heart made of stone.
Ain't room so close.
Cause my girl up and gone.
She'll be back in the morning.
Go on, mama, take your trauma.
Seems like I can't live without
I'm aching more.
Cause my heart is broke.
Cause my love went wrong.
Yeah, another bag and she left me in the mold. Water bubble over stove. As I was dreaming of a bag and I woke. It was starting to snow.
Oh, yes.
And in a bed full of cash, you slowly rolled over and whispered back to me. That's just the way things have to be.
Parler des sorties, bien sûr. On va commencer par Pour Sama, un doc syrien et britannique de Wad El-Kateb et Edward Watts. Wad El-Kateb est une jeune femme syrienne qui vit à Alep. Lorsque la guerre éclate en 2011, sous les bombardements, elle filme au péril de sa vie et au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d'Alep. Wad et son mari, médecin, sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté du pays. À la fois journal intime et témoignage capital d'un pays en chaos total, le film Laurent d'ailleurs a reçu l'œil d'or du meilleur documentaire à Cannes.
Oui, alors si on est partant pour dépasser la musique absolument insupportable et omniprésente, l'impression télévisuelle, parce qu'à l'origine ils sont plutôt dans un travail télévisuel, et également finalement un peu l'absence réellement d'un projet documentaire, bon, si on dépasse ça, c'est pas rien, mais il faut le dépasser, parce que l'essentiel du film c'est autre chose, c'est effectivement l'autoportrait en quelque sorte de cette mère et de ce père, décidés coûte que coûte à rester là avec leur enfant, dans ce chaos absolument infernal, dans cet enfer là, et en montrant à la fois toute la terreur, l'absurdité, parfois des petits moments de grâce comme cet enfant qui va se réveiller malgré un accouchement infernal. Voilà, il y a cette capacité qu'ils ont à capter tout cela, qui est effectivement extrêmement précieux. Alors dépassons un peu la forme, dépassons l'enveloppe et gardons son contenu extrêmement précieux.
Joker de Todd Phillips. Le film se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, incarné par Joaquin Phoenix. Cet homme qui vit avec sa vieille mère, travaille comme clown misérablement, est atteint de lésions cérébrales qui provoquent des fous rires incontrôlés à des moments, on va dire, inopportuns. Et cette question qui parcourt le film, d'où vient le mal qui lui donnera cette nouvelle identité de Joker? À partir de là, toutes les suppositions sont possibles et les pistes nombreuses. La société qui veut qu'il se comporte comme s'il n'était rien. D'ailleurs, Arthur Fleck se demande s'il existe vraiment. Une société qui décide ce qui est bien et mal, ce qui est drôle et ne l'est pas, alors que lui se rêve en vedette de stand-up pour être finalement comme les autres. Récemment, le site IndieWire recommandait une liste de films à voir avant celui-là, et parmi eux, en même temps, les clins d'œil dans le film sont tellement énormes, Taxi Driver, La Valse des Pantins ou Orange Mécanique, rien que ça. Mais combien pèse Joker à côté de ces sacrées références? Pas très lourd, tant les raisons de cette folie sont empilées sans véritable analyse. La société malade ou son enfance meurtrie au choix. Pas loin de penser comme ce critique du New York Times qui écrit un exercice de style fumeux mêlant des thèmes réchauffés et une philosophie de bazar. Bref, un préquel déguisé en film d'auteur. Il n'y en a qu'un d'auteur dans ce film, c'est Joaquin Phoenix qui met en scène sa performance et de façon assez magistrale et vertigineuse. Et c'est le contraire qui aurait dû se passer à la Mostra de Venise. Oui, Phoenix aurait dû avoir le prix d'interprétation et Martin Eden le Lion d'Or, qui donne lui et de façon puissante une vision très noire de l'époque, de sa capacité justement à rabaisser et humilier les individus, comme tente maladroitement de le décrire ce film Joker. Baptiste Ligier n'est pas du tout d'accord.
Non. Je trouve que, évidemment, la prestation de Joaquin Phoenix est absolument remarquable. Je trouve, au contraire, recontextualiser-le aussi dans le film de genre, dans le film de super-héros, dont c'est à peu près l'antithèse absolue. Oui, évidemment, les clins d'œil à Scorsese sont lourds, mais je trouve que Todd Phillips, qui vient quand même de la comédie, à se demander si le ciao pantin à la française qui concerne les acteurs ne touche pas les cinéastes de comédie aux États-Unis. Ouais. Non, je trouve que c'est un film absolument passionnant, qui propose un vrai regard sur le genre, sur la société d'aujourd'hui, très, très large. Enfin, pour moi, c'est un des grands films de l'année.
Pour moi, c'est Martin Eden.
Mais on peut aimer les deux. Voilà.
Il y a débat.
Non, on va tout péter. C'est un doc du Polonais Lech Kowalski, chronique pendant 9 mois en 2017 de la lutte des ouvriers de l'équipementier automobile menaçant de faire péter leur usine à la souterraine dans la Creuse. Une œuvre en immersion et en même temps une réflexion sur le poids de la révolution contre l'indifférence d'un système.
On a pu découvrir ce très stimulant documentaire à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année. Et puis certains l'ont peut-être vu, il faut le dire, sur Arte en juin dernier. Il sort sur grand écran, c'est justice, parce que c'est un très très beau travail sur effectivement une lutte qui a pas mal inspiré d'ailleurs Monsieur Stéphane Brisé pour ses films documentaires, mais là, pour ses films de fiction, pardonnez-moi, mais là c'est le retour du réel, avec notamment cette insistance très très intéressante sur la parole de ces ouvriers. Ils reprennent la parole comme on reprend le travail, comme on refait les choses, on revisite la situation face au gouvernement, face aux repreneurs qui sont effectivement là, incompétents et inconséquents. Ça donne une envie de se battre incroyable. Le titre est là pour ça. Et je trouve que si le cinéma documentaire a une valeur, c'est aussi cette façon de à la fois regarder le réel et de nous donner l'envie à nouveau de se battre.
Ça s'appelle On va tout péter. Oui. Papicha, premier film signé Mounia Medou. Agadour, Alger, années 90. Nejma, 18 ans, étudiante, habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la cité avec ses meilleurs amis pour rejoindre les boîtes de nuit où elle vend ses créations au Papicha, ces jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nejma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits. Cette histoire, Mounia Medour l'a vécue, étudiante elle aussi à Alger pendant cette décennie noire. Le conflit qui a opposé le gouvernement à divers groupes islamiques à partir de 91. Elle a ajouté donc ces éléments de mode comme résistance au foulard, donc hymne à l'émancipation des femmes contre l'intégrisme religieux. Sujet acquis d'avance à nos consciences. D'ailleurs, le problème du film n'est pas le sujet, mais son traitement. En termes de mise en scène, d'abord, ce parti pris de cadrage au plus près des visages et de montage. 50 plans à la minute, j'exagère à peine, absolument saoulant, même s'il est censé être un regard, comme elle dit, immersif et organique. Ça, on a bien compris l'idée. Des gros plans, mais peu de recul sur la situation politique. Ça encore, ça passe puisque le point de vue est sur les filles. Mais ce qui ne passe pas, c'est le soulignage des affects, le soulignement des affects. Pourquoi en rajouter dans une situation déjà bien pesante, comme ce plan interminable sur l'héroïne après un acte criminel? On ne précisera pas lequel. Les intentions sont très louables, les actrices convaincantes, mais pas l'ensemble très attendu dans son déroulement.
Oui, oui, il faut juste peut-être dire le nom de l'actrice principale qui est Lina Koudry, oui, qui est formidable, oui. Voilà, qui finalement le film repose uniquement, ouais, sur ses fragiles mais fortes épaules, parce que elle donne effectivement le tempo du film, cette espèce de bulldozer au féminin, mais de là à lui faire des vêtements tout blancs pour lutter contre l'intégrisme radical tout noir, les ficelles sont un peu grosses.
Nos défaites de Jean-Gabriel Périot dresse un portrait de nos rapports à la politique par un jeu de réinterprétation par des lycéens d'extraits issus du cinéma de post 68, très éloignés de leurs préoccupations, un film réalisé avec la classe de première option cinéma du lycée Romain Rolland d'Ivry-sur-Seine. Les élèves sont devant et derrière la caméra, Laurent.
Oui, c'est la classe de quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est Sarah Logereau, qui fait beaucoup pour œuvrer pour la rencontre, le pont entre le système scolaire et le cinéma, tant mieux. Là, on a quelques petites réserves, parce qu'il y a beaucoup de films dans ce film. Il y a ce que vous disiez très justement, qui sont la reprise de séquences importantes du film militant des années 68, et notamment cette formidable reprise du film d'Hervé Leroux qui s'appelle précisément La reprise du travail aux usines ouvrières. Et il y a une jeune fille qui relit le texte d'une des grévistes qui est étonnante de naturel. On est absolument scotché. Alors le problème, c'est qu'effectivement après, on s'aperçoit que cette jeune femme certainement ne comprend pas la moitié de ce qu'elle dit, parce qu'elle est par exemple incapable de dire ce qu'est un syndicat. Donc ce parallèle-là marche moins bien. Il faut avouer que ils ont aussi en face de ces jeunes un documentariste qui ose leur poser ce genre de questions. Est-ce que tu crois que les politiciens font toujours tout ce qu'il faut pour que tout soit pour le mieux pour tout le monde? Si quelqu'un peut répondre non ou oui à cette question, c'est un immense crétin. Comment est-ce qu'on peut, après, vouloir montrer la jeunesse en lui posant des questions aussi stupides? Ça, c'est quand même un léger problème. Le film est sauvé par toute la séquence finale qui revient sur une lutte faite par ces jeunes femmes et ces jeunes hommes et qui montre qu'effectivement, bon, au-delà de leur inculture totale politique, ils peuvent faire bouger les lignes.
La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti. Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile, profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de la famine. Le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes avec l'aide de son armée et d'un magicien. Il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio, mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes. Ce film d'animation, inspiré du livre, du roman pour enfants écrit par Buzzati en 1945. On se sent un peu seul au monde, Laurent, de ne pas trop avoir adhéré à ce projet pourtant ambitieux.
Oui, oui, l'invasion nous a paru bien longue et bien ennuyeuse, hein, je crois quand même, c'est ça qu'il faut dire. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment les parades militaires, tout ça, enfin des ours. Alors, ça peut être jugé comme très beau, mais c'est une esthétique assez simple. Franchement, ça ne tient pas pour moi la route avec tant de chefs-d'œuvre d'animation qu'on a vu récemment.
On n'aime pas grand-chose cette semaine, hein. Il faudrait aller voir Alice et le maire et puis surtout ceux qui travaillent aussi.
Hein. Oui, eh bien sûr, évidemment. Les deux films, ouais. Oui, les chambres de 112.
Sœurs d'armes de Caroline Fourest, Amira Kazar, Camilla Jordana, Esther Garel, deux jeunes françaises, rejoignent une brigade internationale pour se battre aux côtés des combattantes kurdes. On avait souffert déjà au Fil du Soleil, et que vaut celui-là de Caroline Fourest?
Dans le précédent numéro de Marianne, Caroline Fourest consacre la page hebdomadaire qu'elle a dans cet hebdomadaire, qui est intitulée Esprit Libre, au film d'une certaine Fourest Caroline, pour dire tout le bien qu'elle en pense et qu'elle lui a fait. Si, récit lui permettant, je cite ce film, d'avoir dirigé une armée et un convoi de 47 véhicules blindés aux vitres criblées de balles par Daesh. Bon, ouais, voilà, c'est Caro qui va en guerre, c'est le syndrome BHL, mais seulement n'est pas Malraux qui veut, hein, ça c'est clair. Alors à force de multiplier les clichés, notamment sur ces deux jeunes françaises à qui qu'on prive de téléphone portable dès leur arrivée dans la dite brigade féminine et qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur portable. Forcément, elles sont des femmes, elles ont besoin d'un portable.
On a très peu de temps juste pour être, Baptiste Ligier, juste un tout petit mot, vraiment tout petit mot à dire.
Vous voyez les films canon des années 80 avec Chuck Norris, c'est l'équivalent féminin. Avoir avec quelques verres dans le nez, vous serez très content.
Vite de cadeaux.
Oui, de cadeaux. Les étendues imaginaires pour vous, Marie Modiano, c'est un film qu'on a beaucoup aimé, qui se passe à Singapour, qui est un vrai faux film polar glauque et blafard à souhait sur l'amnésie notamment et la solitude. C'est chez Épicentre. Et puis pour vous, Baptiste Ligier, entre cinéma et littérature, vous y êtes. On y est avec Marc Allégret et André Gide chez Dorian.
Lire sorti la semaine dernière, le 7 décembre à Beaubourg, vous serez Marie Modiano avec Peter Van Poel, spectacle Songs from the Other Side. Et sinon, Martin Eden de Pietro Marcello sort mercredi prochain. Au revoir, on lui laisse le générique.
È una trasmissione ispirata da tutti i film del cinema. Ci sono registi e ci sono attori. Ci sono sceneggiatori e direttori della fotografia. Le immagini sono anche suoni. Sporto Cantè ha scritto le musiche dei titoli di coda. I pezzi sono stati scelti da Maurice Perez. Ophélie Vivière si è occupata della preparazione. È una trasmissione realizzata da Laurent Thomas e Clarie Destacamp. È prodotta e presentata da Christine Masson et Laurent Delmas. Ed io, Pietro Marcello, c'ero.